princesse, bienvenue pour cette dernière émission de la deuxième saison du New Breakfast Club déjà. Avec Maria Kerr et Sonic Eric.
Et beaucoup de mouchoirs à côté de nous.
Alors une émission qui se chargera peut-être d'éliminer quelques mauvaises réputations qui traînent sur le New Breakfast Club, comme quoi il n'y a que connivence.
Oui.
Et accord sur tout.
Et encore oui.
Eh bien non, justement, nous allons tâcher aujourd'hui de démontrer que Maria Kerr et Sonic Eric n'ont pas forcément les mêmes goûts.
Et s'opposent parfois.
Qu'ils peuvent parfois se bastonner et sur la musique, leur sujet de prédilection préféré. Mais avant tout cela, eh bien une nouveauté.
Une nouveauté que je vous ai choisie avec soin, évidemment. Une nouveauté que j'ai choisie parce que j'ai peur que dans le New Breakfast Club qu'on fera en juin 2016, ça soit un trésor caché. Malheureusement, donc je préfère vous en parler tout de suite. On pourrait pas vous dire qu'on vous a pas prévenu finalement 10 ans avant. C'est tout neuf, c'est tout frais, c'est français, c'est rudement bien fichu. On en parle mais dans la presse un peu spécialisée, donc j'ai peur que ça gagne pas le grand public. Comme les Roxy Music du troisième millénaire, rien que ça. C'est rudement bien troussé, comme je vous disais. C'est un quintet ou un quartet, je ne sais plus, anciennement de jazz. C'est plus du tout le cas dans ce qu'ils font, parce que quand on entend un titre comme celui qui va suivre, à savoir Cheese on the Radio, on aurait plutôt l'impression d'avoir, en plus des Roxy Music du troisième millénaire, les nouveaux Taxi Girl.
Oh,
vraiment excellent cette nouveauté que tu nous as dégoûté, mais dégoûté. Et tu nous en as pas du tout dégoûté. Mais il faudrait quand même que tu nous dises le nom.
Oui, c'est vrai que j'ai pas précisé que le groupe s'appelle Pony Hawks. Donc, ils ont un site, hein, www.ponyhawks.com.
P-O-N-I.
P-O-N-I,
H-O-A-X.
Et non, c'est très très bien fichu. C'est plutôt particulier pour du français, je trouve. C'est pour ça que je suis un peu inquiet quant à leur futur. Je vois bien le coup que ça va être une petite
une hype qui va durer un trimestre et puis après
sinon,
on va les
France,
oublier.
Ouais, ça va, ouais. Ça va. C'est dommage parce que c'est vraiment un projet qui me tient particulièrement à cœur, comme le dit la légendaire réplique de cette émission.
Et comme on l'a déjà dit, on pourra dire qu'on a été les premiers à vous en parler. Alors, une reprise qui me tient aussi particulièrement à cœur, mais qui s'inscrit déjà
dans
la thématique de l'émission.
Tu vas me la mettre dans les dents.
Oui, c'est l'artiste qui est repris, ou plutôt le groupe qui est repris, ce sont des gens que tu aimes beaucoup, mais repris de telle façon à ce que tu grinces des dents.
D'accord, c'est Evanescence qui reprend Nirvana, c'est ça?
Non, parce que le groupe te tient peut-être en...
Plus encore.
Oui, d'accord. Plus encore que ça. Somebody de Depeche Mode, repris par le groupe d'Outre-Quiévrin, Scala, la chorale.
Oui, bah t'es en plein dedans, oui. En plein dedans.
De jeunes adolescentes. Oui, je suis en plein dedans. Alors, ouais. Moi, à la fois, j'aime parce que je trouve ça d'une grande pertinence de faire reprendre un groupe aussi tordu que Depeche Mode à des adolescentes à peine, enfin, juste nubiles, quoi.
Ouais.
Je trouve ça très touchant. Je trouve qu'il y a beaucoup de force. Mais évidemment.
Dans l'idée, pas tellement, parce que finalement, Depeche Mode est sans doute le groupe le plus repris au monde. Donc, pourquoi pas aussi des chorales d'ados. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas tellement de courage ou d'idées là-dedans. Hein.
Mais non, mais je disons que l'idée qui me semblait intéressante, mais dans le projet, dans le choix de reprise, c'est que là je me rappelle plus le chef de chœur, hein, qui s'occupe de ces jeunes adolescentes wallonnes et flamandes, mais c'est que au lieu de leur faire chanter globalement le répertoire des choristes,
oui,
pour
oui,
les
oui,
bases,
oui, oui, oui.
reprendre des choses que elles écoutent sur leur MP3, enfin à l'époque c'était peut-être pas les MP3, sur leur baladeur, quoi. Donc leur faire reprendre Evanova, leur faire reprendre Muse, Nirvana,
ouais.
Kylie Minogue. Oui, non, je te sens non, pas mais... convaincu, mais ça
en tous les en tous les cas, ça place Depeche Mode comme le groupe qu'on aura certainement plus entendu, à part les Beatles, parce qu'on aura avec mon sacré une émission spéciale. Mais du coup, Depeche Mode doit prendre la tête des du groupe qu'on a le plus entendu dans cette saison de New Breakfast
Club. Oui, Depeche Mode en force sur le New Breakfast
ouais,
Club.
Il y a rien à dire.
On ne se lasse pas de ton générique, hein.
Bon, non,
c'est
non,
la
non,
deuxième
bien,
fois qu'on l'entend. Mais...
Il est bien. Je vous rappelle que c'est Alice Donna et c'est assez étonnant comme ça. Donc il ne sera pas question de Depeche Mode pour le trésor caché.
Non.
Encore qu'il puisse en avoir, hein. Mm-hmm. Mais on va aller chez les Français, j'ai dit rester à cause d'Alice Donna. On va aller chez les Français en 1967, donc pas très loin finalement de son travail à elle, avec un type dont tu as peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Évariste.
Ah, pas bien. Alors, je placerai ça vu de loin dans la galaxie Antoine,
ouais,
les
ouais,
élucubrations,
ouais,
tout ça.
Ouais, ouais, ouais. C'est quelque chose dans ce genre-là. C'est en fait, c'est un producteur qui a voulu profiter du phénomène Antoine, qui était un petit peu lettré par rapport, enfin, il était vendu comme étant lettré sur ses premiers 45 tours, et qui là cette fois-ci s'est carrément entiché d'un diplômé de l'université de Princeton en 1967, un diplômé de physique théorique qui s'appelle Joel Sternheimer et qui avait l'air d'être un petit peu barré, et le producteur en question l'a senti et lui a proposé de bricoler quelques 45 tours avec lui, des 45 tours pas piqués des verres, parce que on songe à Antoine évidemment, mais c'est beaucoup plus cinglé, c'est beaucoup plus punkoïde. On écoute et on en parle juste après.
Dis-moi,
tell me,
connais-tu l'animal?
Do you know that beast?
Qui inventa?
Who discovered?
Le calcul intégral.
Integral calculus.
Oui, dis-moi, connais-tu l'animal qui inventa le calcul intégral? Est-ce Leibniz ou bien Newton, ou bien est-ce que c'est moi qui déconne? Voudrais-tu, mon amour, intégrer des équations nuit et jour? Sais-tu que quand on fait des épures, tout ce qu'on attrape, c'est les courbatures? Moi, j'en ai eu quand j'étais tout gamin, un trillion de vaches pour la Saint-Valentin. Il y en avait une qui avait une bonne tête, elle était mignonne, on l'appelait Chipette.
Oh, tell me,
dis-moi,
do you know that beast?
Connais-tu le général?
Who discovered?
Qui inventa?
Integral calculus.
Le calcul intégral.
Le général Cambronne, je crois que ce qu'il a trouvé, c'est pas tout à fait ça. Pénélope, quand tu lis ses parties, tout ce qu'elle savait, c'est faire tapisserie, la pauvre. L'homme des neiges, c'est pareil,
il a dû fondre au soleil.
S Astérix, soit plus Bégalix, pendant que vous y êtes, pourquoi pas Évarix?
Évarix le Gaulois! Non, c'est pas moi! C'est ma sœur qui a cassé le calculateur!
Quand je t'ai vu sur ton balcon, tu m'as dit intègre et ne fais balcon.
Mais dis-moi!
Tell me!
Connais-tu l'animal?
Do you know that beast?
Qui inventa?
Who discovered?
Les campagnes électorales!
Integral calculus.
C'est duquel furent les premiers porte-clés? Ben tout simplement les bourgeois de Calais.
Ce que je pense en toi n'est de Jacques Dutronc.
Ça commence par C, ça finit par on.
700 millions de yéyés à travers le monde entier. Ça ne fait jamais tout bien compter qu'un 1 400 000 000 de pieds.
Je crois qu'il vaut mieux mettre un point final, sinon ça pourrait finir encore plus mal.
Évariste qui se demandait donc si on connaissait l'animal qui a inventé le calcul intégral.
Alors il chante un peu avec ses pieds, mais c'est très
drôle. Et puis il écrit un peu vite, hein.
Oui.
C'est 5 minutes au coin d'une table, hein, cette chanson. Mais
Il y a pas beaucoup de ratures.
Il y a de la ferveur, il y a de l'intensité un peu zarbi. Hein,
y a pas... Effectivement, il y a un esprit proto-punk, ne serait-ce que dans l'amateurisme dont tu as parlé.
Absolument.
Tout à
l'heure. Ouais. Alors ce scientifique artiste a été adopté très vite par la bande de Harakiri. On s'en étonnera pas vraiment. Il a été très pote avec Wolinski. Il a fait des spectacles avec Claude Confortès où il a composé les musiques. Et il travaillait. Alors attends que je te recite ça. En tant que scientifique, il bossait sur les relations possibles entre la croissance des plantes et plus généralement la synthèse de protéines et leur exposition à des séquences musicales.
Ça fait très, alors là, ça fait très hippie pour le coup, pas du tout yéyé,
mais
très hippie, ouais. Mais on est en 67, hein.
Ouais. Et ce titre et cet artiste est en très bonne place sur le site Bidet Musique.
Ah oui.
Je l'ai constaté a posteriori, principalement dans le listing des inécoutables. Et pourtant, nous, ici, on vous l'a fait entendre.
Alors pour cette ultime émission, l'occasion d'explorer une partie de nos discographies réciproques qu'on a eu tendance à parfois laisser sous le boisseau et qui sont l'exact opposé de ce que l'autre aime principalement. Donc on va chacun le petit jeu aujourd'hui qui est d'ailleurs pas très très loin du blind test puisqu'on s'est absolument pas concerté avant, on en a absolument pas parlé. Le principe ça va être de choisir un morceau dans ses goûts dans ses goûts à soi qui soit quelque chose que l'autre n'aime
qui
pas.
Qui soit une écharde dans l'oreille de l'autre.
Absolument. Donc on commence tout de suite le jeu et on en discute après. Première écharde.
Kill your ills. When you gonna wake up?
Est-ce que j'ai bien choisi?
Bon,
est-ce que j'ai bien trouvé?
Avant même que je sache ce que c'était, j'ai déjà détesté l'intro. au point que j'ai cru qu'on allait entendre Véronique Sanson ou Daniel Balavoine. Et en même temps, bon, pour Balavoine, ça aurait été difficile parce que je pense pas que tu sois vraiment client.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Sanson,
à la limite, t'aurais pu trouver un morceau ou deux de Sanson.
Ouais, c'est ça. C'est que Sanson, je pense pas que tu sois fan de son catalogue entier, mais sur un ou deux titres, pourquoi pas. Donc j'ai d'abord pensé à ça parce que les arrangements sont foutument dégueulasses. Hein. Cette batterie, cette basse et cette petite orgue genre berger sur les mauvais disques de France Gall, j'étais persuadé que c'était français. Et puis bon, évidemment, quand la voix est arrivée, j'ai vu qu'on était chez Dylan. Dylan, étonnamment, j'ai jamais réussi à m'y faire, même sur ses albums considérés plus pop comme Blonde Note Blonde ou des choses comme ça. J'ai essayé de multiples reprises en me disant, mais t'es un con, c'est pas possible, tu dois aimer Dylan. Les Beatles aimaient Dylan. Enfin, il a apporté beaucoup, mais, et j'y arrive pas. Et alors là, particulièrement avec ce son-là, c'est impossible.
Alors, ce qui est étonnant, enfin, c'est un peu volontaire aussi dans le choix de cet album, c'est que c'est un album qui est rejeté par les Dylanophiles, hein, qui est une secte bien, bien particulière. Ça, c'est vraiment la trilogie chrétienne, entre guillemets, avec Saved et Shot of Love. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment le meilleur dans cette trilogie-là. Je trouve qu'il y a une énergie, une foi, hein, désolé d'utiliser des gros mots, une conviction qu'on trouve finalement chez peu d'albums de Dylan. C'est le moment où il se convertit, hein, Dylan est d'origine juive, c'est le moment où il se convertit au catholicisme, où il va à Jérusalem.
Ouais.
Et je trouve qu'il y a un regain vraiment de conviction dans sa voix, dans son chant. Je trouve que sa voix est très très bien mixée dans cet album. J'adore ses textes parce que c'est pas parce que Dylan se convertit au catholicisme qu'il va chanter comme Sœur Sourire, hein. Évidemment pas dans la béatitude. Il y a toujours ces vieux démons, quoi.
Ce que tu dis place la fracture donc entre nous deux. Enfin, on avait déjà parlé des choses qui nous opposaient dans la manière d'appréhender la musique. Et moi, en l'occurrence, le contenu d'un texte est vraiment, enfin, ça a assez peu d'importance pour moi, même quand c'est prétendument des grands chroniqueurs, voilà, de la société anglaise comme les Smiths ou les Kinks. Ça m'importe peu. Il faut qu'il y ait de la musique avant tout, et je trouve qu'il y en a assez peu de musique chez Dylan. C'est pour ça que je suis pas.
Ah ouais, alors là, je suis absolument pas d'accord avec ce que tu viens de dire là, comme ça, lâché en loose day juste avant le prochain morceau. Il y a assez peu de musique chez Dylan. Je peux pas te laisser dire ça. Hein. Je te le dis.
Bah, dans le morceau que tu nous as mis, en tous les cas,
je trouve qu'il y a une chouette.
Non, mais il y a pas
les arrangements, effectivement, moi j'aime bien, mais peut-être pour des mauvaises raisons. Mais je trouve qu'il y a une inspiration mélodique qu'il a sans cesse renouvelée depuis les débuts. Je trouve qu'il y a une évolution. C'est pas quelqu'un qui a fait toujours la même chose, qui a tracé le même sillon. C'est aussi l'intérêt du personnage, c'est qu'il a une carrière qui est quand même suffisamment protéiforme pour pouvoir susciter un intérêt renouvelé. Je te sens très convaincu.
Alors, puisqu'on est dans les moments où je dénonce le peu de musique, je vais me tirer une balle dans le pied tout de suite en te proposant ceci.
Alors je suis un peu partagé. Bon, effectivement, c'est pas du tout dans mon, c'est pas du tout dans ma crèmerie, mais bon, j'avais reconnu hein, que c'était Marilyn Manson, mais dans cette comment dire, dans cette optique métal, il y a des choses que je pense que je déteste plus franchement que ça, parce que finalement, bon, ce qui m'énerve le plus, c'est le chant, hein, c'est quand même du chant grand guignol, mais il y a quelques petites subtilités dans le dans les arrangements, notamment ces effets qui sont pas loin de certains films d'horreur dans la dans la bande de son. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Au refrain, je trouve ça pas complètement inintéressant. C'est évident que je mettrais pas ça dans ma voiture, que je chercherais pas.
Et ton fils te reproche d'ailleurs. Hein. J'ai vu ton fils hier qui le reprochait encore.
Oui, mais enfin, je mais en fait, finis vite contre la platane. Hein.
Ouais. Non, mais bon, peut-être que l'extrait par lui-même, j'aurais pas dû prendre Manson, mais je voulais t'amener sur le terrain du métal globalement, parce que moi, je suis pas un métalleux du tout, mais j'ai eu une plus grande curiosité que toi, je pense, sur le sujet, et une plus grande sensibilité, enfin peut-être pas une du coup, mais un goût un petit peu plus tendu vers ce genre-là, alors que toi
je
rappelle
d'accord.
Pour mémoire, enfin c'était pas à l'antenne, mais c'est dans la grande histoire du New Breakfast Club où Sonic Eric avait déclaré que le métal était le cancer de la musique,
et je ne change pas une virgule, il y avait pas de virgule, mais c'est pas grave, je ne change pas une virgule à ce que j'avais dit. Je pense qu'effectivement il y a un côté toxique dans le métal, mais je dirais même le hard rock. Il y a des exceptions, hein, je dirais Queens of the Stone Age, mais est-ce que c'est vraiment
du métal?
On
est déjà au bord.
Et CDC, dont j'ai dit.
C'est presque des choses périphériques au fond.
Voilà. Mais lorsqu'on est au cœur.
J'ai failli te mettre un Black Sabbath. Et là, on aurait été dedans, je pense.
Ah, oui.
Mais en même temps, Black Sabbath, je t'aurais mis le premier album parce que je suis pas beaucoup fan de ce groupe, mais les deux trois premiers disques me plaisent. Mais ils gagnent en patine avec le temps aussi, ces groupes-là. C'est pas aussi impactant que du metal actuel ou même que Metallica. Et peut-être que Black Sabbath, ça t'aurait finalement pas non plus complètement déplu parce que ça a pris du grain, c'est devenu plus classique en fait. Mais tu n'es pas d'obédience métal à aucun moment.
Non, à aucun moment. C'est-à-dire que, ouais, effectivement, je considère que dès le riff de Communication Breakdown, sur le premier album de Led Zeppelin, on va vers quelque chose qui est un nadir, hein, de la musique populaire, qui est ce qu'il y a de plus répréhensible, quoi. Qui est vraiment ce que j'aime le moins, évidemment. Là, il y a une porte d'entrée vers quelque chose qui va aboutir à Judas Priest, qui va aboutir à, alors évidemment, c'est des groupes peut-être un peu anciens maintenant, mais à Metallica, à Saxon. Ça,
Judas Priest qui a tiré son nom d'une chanson de Bob Dylan. Hein.
Oui, effectivement, et qui a même repris et qui a repris John Baez.
Tout se recoupe.
pas forcément. Et même encore aujourd'hui, c'est évident que toute l'imagerie satanique, c'est comment dire, à des lieux de la nuance que je cesse de
publiciter. En même temps, ce que viens de souligner dans ce morceau, c'est de ce registre-là. Tu dis cette ambiance de films d'horreur, c'est des oripeaux
sataniques.
Oui, parce
que les films d'horreur ne m'intéressent pas du tout, mais dans le bruitage, dans la bande son, dans les scores, tu en as souvent parlé sur ces ondes, mais il y a des scores qui sont beaucoup plus intéressants que ce qui nous est donné à voir au niveau de l'image. Donc là, parfois, il peut y avoir dans l'arrangement des choses plus intéressantes que ce qui se trouve sur le disque.
Bien,
très bien. Alors deuxième épine ou troisième épine de cette émission maintenant.
Celles qui ont vu trois fois Rainman, celles qui ont pleuré Balavoine, celles qui faisaient des exposés sur l'apartheid et sur le Tché, celles qui ont envoyé du riz en Éthiopie, en Somalie, celles qui disaient tu comprends pas. Les filles de 1973 ont 30 ans. La la la. Les filles de 1973 ont 30 ans. La la la. Celles qui mettaient des bandanas et des t-shirts Best Montana, celles qui ont porté les baskets Reebok de Rosanna Arquette, celle qui fabriquait des bracelets brésiliens pendant l'heure d'anglais, celle qui disait Eric Serra. Les filles de 1973 ont 30 ans, la 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 la. Les filles de 1973 ont 30 ans, la 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 la.
Évidemment, évidemment, tu m'as encore eu, tu m'as encore eu deuxième fois. Je suis pas très très client de Vincent Delerme. Je suis pas client de Vincent Delerme. Alors cette fois-ci, je vais me contredire puisque c'est, il y a dans un premier temps un problème de texte. Parce que c'est pas, alors le maniérisme et tout ça m'importe finalement peu. Les deux réserves que j'ai, enfin qui m'empêchent de rentrer dans son univers, il y en a une qui, il s'agit du texte, c'est-à-dire que j'aime pas du tout cette forme d'écriture faite sur la complicité au moindre mot avec son public. Je trouve que c'est vraiment complaisant, que c'est ramenard. Enfin, je trouve que c'est ça me semble assez évident d'écrire comme ça, quoi, de faire que des madeleines de Proust en qui les unes après les autres et de se choisir un champ générationnel et de le caresser dans le sens du poil, ça me gonfle prodigieusement. Mais surtout, et là c'est carrément de la malhonnêteté parce que de ma part, si je peux pas saquer Vincent Delerme, c'est un problème politique, tout simplement. C'est-à-dire que je déteste le public de Vincent Delerme presque plus que tout autre, quoi. Il y a pas mal de gens chez les jeunes Français que je n'aime pas.
Je m'en doutais que j'avais.
À cause de leur public, évidemment. Je pense à des gens comme M, par exemple, que je peux aimer des chansons sur ses disques, mais si je vais dans un concert de M, normalement, je vais me mettre à détester M parce que son public est insupportable. Et c'est exactement la même chose pour Vincent Delerme, c'est-à-dire que ça, bon, je les attaque souvent au Nouvel Obs, mais enfin voilà, il y a un truc un petit peu.
Télérama Nouvel Obs.
Pardon.
Télérama
oui,
Nouvel
oui, Obs. Puis là, des gens de bon goût, plutôt de l'éducation nationale. Enfin, il y a un profil un petit peu type du fan de Vincent Delerme, pour en connaître d'ailleurs de fervents, hein, qui. que tu connais aussi. Enfin bon, par contre vous en tant qu'auditeur vous les connaissez pas, donc c'est même pas la peine d'en parler. Mais voilà, j'aime pas le profil type du de la personne qui apprécie d'une main Vincent Delerme et de l'autre Carla Bruni pour des raisons quasi identiques en fait.
Oui, oui, non, je vois bien de ce dont tu veux parler, mais justement, je regrette un petit peu que ces a priori ou que ces idées préconçues que tu as sur les fans de Vincent Delerme t'empêchent de goûter des arrangements dont tu m'as dit.
Oui.
Donc tu as dit hors antenne, là je tiens à répéter, et il y a des témoins, pas dans la salle, mais de l'autre côté du hublot. On dirait du Divine Comedy.
Ouais.
Tu reconnais l'avoir dit.
Ouais, ouais. Je le reconnais l'avoir dit. Mais par contre, enfin, c'est sur le deuxième album.
C'est sur le deuxième album.
Le premier, le premier était plus dépouillé. Ouais. Le second avait été annoncé comme étant très produit et donc j'avais quand même porté une oreille plus attentive et j'avais pas été ni séduit ni vraiment convaincu par les arrangements. Et c'est vrai que là, sur cette écoute-ci, j'ai daigné reconnaître que les arrangements, au moins dans la fin, il y avait du Nylanon de Divine Comedy là-dedans. Ouais.
Bon, je m'en contenterai. Je crois que je peux pas plus demander sur ce titre-là. Beaucoup.
C'est vrai que j'aime pas beaucoup le garçon, qu'en chanson française, je préfère des gens comme Dominica. Enfin, des choses plus, moins, je saurais pas comment les définir, mais en tous les cas, pas Vincent Delerme. Bon bah moi je vais continuer aussi, je vais essayer de taper un peu plus dans la lucarne moi aussi qu'avec Marilyn Manson où finalement tu pouvais trouver une échappatoire. Je suis pas certain avec ce titre-ci finalement parce que tu peux y trouver quelque chose d'intéressant, mais encore une fois on digressera juste après sur un univers qui n'est pas le tien.
Non, je trouve que t'as fait un bon choix. C'est bon, le son est pas totalement détestable, mais je trouve que le morceau tourne très vite en rond, que il y a pas d'évolution à l'intérieur du morceau. Tout est dit dans les 15 premières secondes et après on va répéter ça pendant 3 minutes. À la limite, ça peut peut-être m'intriguer les 10 premières secondes. Je vais rester sur le canal de la radio et puis au bout de 20 secondes, je passerai à autre chose quoi.
Bon, en l'occurrence, c'était les Kills avec Love Is a Deserter. C'était sur l'album No Woe qui est sorti l'année dernière. Je voulais t'amener sur le terrain de groupes comme les Kills, comme John Spencer Blues Explosion, Boss Hogg qui est le side project enfin c'est plutôt le groupe de la femme de John Spencer, mais il y intervient beaucoup. Ce genre de rock de rock contemporain à filles, dans lequel tu dois pas te retrouver beaucoup, je pense aussi. Enfin, par exemple,
alors c'est pas dans le fait qu'il soit fille, hein, parce non, que Dieu non, sait que, non, bien sûr, que j'aime exemple, les girl groups et,
ouais, oui,
et les
mais
groupes de filles.
Il y a une forme de groupe de filles que t'apprécies moins bien. Le Riot Girl dans sa version la plus extrême.
Absolument.
Voilà,
ah oui, là, je suis d'accord avec toi.
L7, Hall quand elles sont très éloignées de la pop et tout ça, c'est.
Et ben voilà. Exactement. Mais tu viens de donner la réponse toi-même. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a dans ces morceaux de rock pur, entre guillemets, pour puristes, une haine de la pop, eh bien ça m'éloigne forcément moi de ce genre de groupe, parce que moi j'ai besoin d'un caractère hybride quoi.
Voilà, tu n'as pas de t-shirt de PJ Harvey.
Non, et je n'en aurais sans doute jamais, tout en reconnaissant effectivement une certaine volonté d'authenticité, de dépouillement et tout ça, mais moi dès qu'on veut être plus intégriste entre guillemets que les pionniers 50s ou que à chaque fois qu'il y a un retour aux sources, eh bien je commence un petit peu à sortir les griffes. Moi justement, j'aime ce qui prend, qui puise un peu partout, et puis je n'ai rien contre les morceaux radiomicales entre guillemets, c'est-à-dire qui sont faits pour passer souvent en rotation, pour passer à la radio. J'aime l'aspect proprement séduisant de certains morceaux clairement pop quoi, hein. C'est pas pour rien que je voue un véritable culte à ABBA.
Ouais, bien sûr, mais donc cet intégrisme un peu obscurément rock, là, on n'est plus dans tes
voilà, tu vois, j'avais pensé à Suicide effectivement, on n'était pas du tout dans la même période,
mais dans l'esprit on était pas très loin.
Je trouve que c'est vraiment des morceaux qui tournent très très vite en rond quoi, globalement.
Voilà.
Bon.
Mais moi j'aime bien.
Oui, c'est un peu le principe du jeu. Alors encore quelque chose que j'aime bien et qui normalement ne devrait pas te faire monter au plafond.
Forever.
Bob Seger, The Silver Bullet Band, Betty Lou Is Getting Out.
Mais ce qui m'étonne, c'est que juste avant ce morceau, tu venais de dire que t'étais pas trop client des retours aux sources. Et là.
Oui! Non, mais justement. Oui, je sais bien, je vais chanter la palinodie. Je sais bien.
Non, mais j'ai fait la même chose tout à l'heure, mais ouais, bon.
Mais effectivement, il y a à ce côté, hommage aux pionniers du rock'n'roll, mais dans une optique beaucoup plus, pop et, pas volonté d'être.
Ah là, la volonté pop, moi je la vois pas du
non.
tout là. Ah non, je la
le
sens
piano,
pas là.
Le piano.
Ah non, là moi je vois vraiment du pop rock, des un truc pour choquer les shopping quoi.
Il y a un peu de ça.
Ah
aussi.
Ouais non, là moi je trouve ça vraiment sur des rails tout en fonte. Ah ouais non, la sensibilité pop, je la sens pas du tout. Je la sentirais presque d'avant alors qu'ils le sont pas tellement plus, mais le rockabilly comme ça, je l'aime bien chez les Stray Cats par exemple. Ouais. Mais c'est peut-être parce que c'est plus adolescent là, j'ai vraiment l'impression que c'est du rockabilly mais pour quadra bedonnant quoi.
Ouais. Ouais. Alors je voulais t'emmener là parce que effectivement
Zébarbu.
Il y a une différence alors qui s'estompe un petit peu parce qu'effectivement c'est une musique que j'ai beaucoup écoutée
ouais,
il y a 10-15 ans.
Tu te les passes moins hein, ceux-là quand même.
Un peu moins aujourd'hui mais j'ai toujours un peu de tendresse pour Bob Seger parce que c'est une voix quoi, c'est une voix très profonde, très soul, mais il y a quand même tout un pan du rock américain, de Fogerty à John Cougar Mellencamp, de Springsteen à Bob Seger, ouais. Où on n'est pas exactement non. dans ton rayon.
Fogerty, je peux mettre un pied dedans parce que j'ai la tendresse pour Creedence, mais pour tous les autres là, ouais, j'abandonne, je jette l'éponge. Ouais.
Tu n'as jamais cherché à rallier le métallo de Chicago. Quoi.
Non, j'ai essayé un peu Mellencamp, mais vraiment là, c'est au-dessus de mes forces. Hein. J'ai mes propres fautes de goût que j'ai pas étalées aujourd'hui. On fera peut-être à la rentrée parce que on proposera certainement une rubrique où tour à tour on avouera avoir tel ou tel disque dans sa discographie.
Il y a du boulot.
Ça sera ou un mea culpa ou un plaisir honteux, peu importe, on trouvera la formule. J'ai mes propres plaisirs honteux, mais ceux-ci j'ai pas réussi à les rallier quand j'ai essayé, parce que j'ai essayé finalement John Cougar Mellencamp, il s'est tapé des disques du mois chez Rock et Folk. J'étais ado et voilà, et je me posais des Lonesome questions Jubilee. Donc j'ai forcément essayé et j'y trouve aucune résonance avec mes préoccupations musicales ou esthétiques évidemment.
Ouais, enfin moi il y a tout ce côté proximité avec les petites gens.
Ah bah oui là on y est là, ça sent la sueur et puis j'ai des taches de bière sur mon fut hein, c'est évident. Bon bah non mais si globalement là tes trois épines plantées dans les tympans ont atteint leur cible. Hein. Alors si moi j'ai un peu tourné autour du pot peut-être que je t'ai juste titillé jusqu'alors. En revanche je laisse tomber les oreilles et là c'est directement le poignard dans le cœur.
Oh, c'est Et c'est bien choisi. Là, c'est un véritable calvaire. C'est très court, mais c'est évidemment tout ce que je déteste. Là, il y a rien à dire. À la fois dans le, l'aridité des arrangements, dans, alors,
la lourdeur,
de piliers de bar. Là, les piliers de bar sont pas dans le public. C'est carrément c'est le chanteur, quoi.
Ah, c'est fou.
C'est-à-dire, tout est mis sur la table. Il y a aucune retenue. C'est, j'aime pas du tout.
Bah, c'est un peu heavy sans métal, hein, comme je disais hors antenne. Mmh. Et moi, en revanche, je vois un romantisme inouï et pas du tout.
Ah,
du comptoir quoi. C'est très pesant. Je suis pas un fan intégral de Tom Waits, j'ai mis un temps fou d'ailleurs. C'est étonnant parce qu'ado, il y a deux pans qui étaient vachement appréciés par des amis à moi et que j'aimais pas du tout et qui sont radicalement opposés. C'était Tom Waits d'un côté et Prince de l'autre.
Ouais.
Autant dire de visions de personnages. Mais je suis pas du tout un fan intégral de Tom Waits, pardon. J'aime beaucoup l'album Swordfish Trombone, dont le morceau qu'on vient d'entendre, Underground, est tiré. Et puis Frank Wilders, qu'il a réalisé quelques années plus tard. Mais là, évidemment, il n'y a rien de pop. Il y a à peine des formats de chansons, mais je trouve qu'il y a une intensité et un romantisme brutiste, je sais pas si c'est possible finalement, mais qui me touche là.
Non, mais je trouve que dans cette voix perpétuellement éraillée, il y a un systématisme qui est très très fatigant. Alors je pourrais trouver un ou deux morceaux Blue Valentine sur l'album Blue Valentine peut-être audible, mais guère plus que.
Moi, j'aime bien les arrangements sont très organiques. On a l'impression que c'est fait avec des boyaux ou des choses comme ça.
Alors c'est rigolo parce que tu vas voir mon blind test est complètement aux antipodes de ce.
Très bien. Alors terminons avec ce dernier blind test. Bon, c'est un blind test qui du coup reste dans la thématique. Alors c'est quelque chose que j'aime pas.
Complètement.
Eh ben écoute, le mieux c'est que tu m'envoies ça dans les dents. Le problème c'est que là pour l'instant j'aime bien. Peut-être que le chant va tout foutre en l'air, mais là les arrangements, la batterie avec plein d'échos, tout ça, là ça me plaît ça. La basse très 70s. Très musique de film.
Ah oui.
C'est une musique de film?
Non, pas du tout, mais il en a fait.
Ouais, non, là pour l'instant. Hey baby, what you know good. Donc c'est Marvin Gaye?
Oui.
Ouais, c'est vrai que.
Sur l'album What's Going On.
Ouais, je déteste pas complètement. J'aime bien ce qu'il a fait avec Tammy Terrell, par exemple.
Ouais.
Je trouve qu'il y a l'album United que j'aime bien. What's Going On? Je l'aime pas des masses, mais en même temps là c'est fou, hein, c'est que comme avec de l'herbe, j'avoue finalement quand je sais pas ce que c'est, j'ai une honnêteté plus nette, plus franche peut-être. Non, je suis pas fan du chant, mais par contre j'aime bien les arrangements derrière.
Non, parce que je pourrais en parler des heures de
ça,
Marvin.
On le sait bien.
Et il nous reste 1 minute 15 parce que il y a une conduite de la voix, une tenue, une richesse, une texture, c'est admirable. C'est admirable.
Voilà.
C'est un seigneur dans ses hautes œuvres.
À tes yeux, c'était la manière idéale d'achever cette deuxième saison de New Breakfast Club.
What's happening, brother? Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Ben, mon frère, c'est déjà la fin de cette émission.
Saison,
et là,
cette émission de cette saison. Mais vous inquiétez pas, à la rentrée, je pense qu'on va en avoir sacrément sous la pédale et qu'on s'en mangera dans une belle année encore.
J'attends cette nouvelle.
Je te souhaite de bonnes vacances, Sonic. On va essayer de se voir quand même, se faire un ou deux blind test perso, hein, sans micro, sans antenne, au cours de l'été.
D'accord.
Salut à tous, bonnes vacances.
Allez, bonnes vacances à tous, au revoir.